Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue pour le 48e épisode ou la 48e étape de Strasbourg à Brest ou le premier bonus puisque là je suis à Brest et l'étape devrait se terminer à Crozon si tout se passe bien. Et je vous ai quitté hier, j'étais devant la mairie de Brest et il y avait ce début de manifestation qui commençait et je vous ai dit soyez là parce que j'ai une histoire à vous raconter. Eh bien, l'histoire, elle est très simple. C'était il y a 30 ans, je suis allé faire un reportage sur un accouchement. Et il se trouve que j'avais un ami à la maison de la radio, et sa belle-sœur était sage-femme à la maternité de Paimpol. Grâce à lui, on est rentré en contact, et je suis arrivé à la maternité de Paimpol. Non, en fait, non, j'exagère. On s'était parlé avant, j'avais dit que j'avais envie de faire un reportage sur un accouchement. J'avais envie que ce soit le premier pour la femme, et qu'elle veuille pas de péridurale. Ah oui, moi j'étais comme ça. Et puis, elle me dit, bah écoute, on verra bien ce qui se présente. Et après, j'avais des amis qui me disaient, jamais une femme, elle va accepter qu'il y ait un journaliste qui assiste à son accouchement, t'es malade. Moi, je disais, bah je sais pas, écoute, on verra bien. Eh ben, j'ai attendu 48 heures, mais au bout de 48 heures, je suis sorti, il faisait nuit, c'était un vendredi soir. J'ai dit, ben non, ben voilà, j'ai eu une mauvaise idée, ça n'aboutit pas. Et là, il y avait la pleine lune, et là, je me rappellerai toujours, je vois arriver un couple dans la nuit, et qui viennent vers moi, et comme j'avais une blouse blanche, ils me disent, bonjour docteur, je dis, non, je ne suis pas docteur, je suis journaliste, mais il y a la sage-femme qui vous attend. Et la sage-femme, elle a dit, voilà, il y a un journaliste, est-ce que vous acceptez? Et la femme, elle a dit, bon, oui. Et la sage-femme, elle s'appelle Maï et c'est chez elle que je suis ce soir. Et donc, comment ça va depuis 30 ans?
Depuis 30 ans, ça va pas mal. Quelques trucs. Alors, je suis toujours sage-femme, parce que ça, je pense que je le serai toujours. C'est plus une identité qu'une profession au bout d'un moment. Mais maintenant, j'ai un peu évolué et maintenant, je suis universitaire. C'est assez récent. Hein. Je viens d'être recrutée maîtresse de conférence en maïeutique.
Alors, qu'est-ce que c'est la maïeutique? C'est l'art de faire naître?
À l'origine, c'était Socrate. Donc, sa mère, Phénarète, était sage-femme. Et elle faisait donc accoucher les corps. Et lui disait qu'il faisait la même profession que sa mère en faisant accoucher les esprits. Voilà. Donc, toujours un peu tendance à dire que c'est un peu pompeux de nous attribuer ce terme-là, mais enfin, bon, voilà, c'est ce qui a été décidé. Et donc, la maïeutique, pour nous, à l'heure actuelle, ça englobe des disciplines médicales, qui sont la gynécologie, la pédiatrie, l'obstétrique et l'orthogénie. Et puis également, eh bien, tout ce qui va toucher aux études sur la santé reproductive, la vie génésique, on va dire, des femmes et des couples. Mais ça peut englober de l'épidémiologie, de la santé publique, et pour mon cas, plutôt de la sociologie et de l'anthropologie.
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être sage-femme, toi, au départ?
Je voulais faire un métier. Ça, je me souviens, j'étais jeune, hein, puisque j'avais 18 ans. Je voulais faire un métier qui serve à quelque chose, qui pourrait servir à n'importe quel humain et n'importe quelle humaine, où que j'aille, quelle que soit l'époque, l'endroit du monde. Et je voulais pouvoir faire quelque chose d'utile, être utile, rendre service, et juste avec mes mains. Quand on s'est rencontrés, moi j'étais toute jeune sage-femme.
Je sais pas si ça faisait combien de temps d'ailleurs que tu étais sage-femme.
J'avais été diplômée, j'avais commencé à travailler en 91 et c'était en 94, donc c'était vraiment en plus une époque qui paraît maintenant complètement révolue dans les façons de faire. Mais donc j'ai fait le choix de travailler à la maternité de Paimpol, qui était une maternité où il y avait peu très peu d'accouchements, puisqu'on était à peu près 350-400 par an. Mmh. Et dans les grands centres où j'avais appris, moi, l'obstétrique, on était plutôt aux alentours de 2000-2500.
Mmh. À Paimpol, je me rappelle qu'il y avait, par exemple, une grande baignoire où les futures mères pouvaient aller se détendre. Enfin, il y avait tout été fait pour que ça se passe dans la douceur et que l'accompagnement soit paisible, quoi.
Ouais, c'est vraiment que c'était vraiment un endroit qui était particulier. C'était difficile d'ailleurs de travailler ailleurs après.
Parce que tu as travaillé
après je suis partie. J'ai travaillé dans une autre maternité qui était censée être une petite maternité, mais qui déjà était très grande pour moi. Ça s'appelait Château Gontier en Mayenne. Mmh. Mais c'était chouette aussi. Et puis ensuite, je me suis installée en cabinet libéral dans la Sarthe, à Sablé-sur-Sarthe, où j'ai travaillé pendant 5 ou 6 années. Ensuite, je suis devenue enseignante à l'école de sages-femmes de Tours pendant 6 ans, pendant laquelle aussi j'ai fait une thèse en parallèle en sociologie. Et ensuite, je me suis réinstallée un peu en libéral à Paris. Et ensuite, j'ai fait de la recherche.
Et alors justement, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'accouchement en 30 ans ?
Ça marche toujours pareil, hein.
C'est ça.
Voilà. Non, justement, ça c'est peut-être une des grosses différences, que maintenant on a plutôt tendance à dire que bah non, hein, on s'était un peu planté. En fait, on avait déjà dans le début des années 90, en fait, on commençait une remise en question de tout ce qu'on nous avait appris sur l'accouchement. Surtout sur les positions d'accouchement, allongé sur le dos, prenez de l'air, bloqué, poussez fort. Enfin voilà, on était déjà, et à Paimpol, on était dans cette remise en cause-là, début des années 90, d'être plutôt à favoriser le mouvement, favoriser la spontanéité des gestes.
La spontanéité, c'est-à-dire que la mère, enfin la future mère, si elle se sentait, elle a envie de se mettre comme ça, elle se mettait comme ça, enfin, on l'écoutait plus qu'on ne lui parlait alors.
Voilà, c'était plutôt de la suivre, plutôt que de la contraindre. Bon, alors voilà, évidemment, c'était le début. Je ne veux pas dire qu'on était les premiers à le faire, hein. Bien entendu, il y avait eu dans les années 70 déjà un énorme mouvement pour libérer en fait cette contrainte qui était dans des endroits comme Pithiviers avec Michel Audan, des endroits comme les Lilas à Paris, des endroits comme les Bluets, des endroits, enfin voilà, donc il y avait beaucoup déjà dans les années 70, c'était parti. Puis en les années 80, eh bien c'était resté des niches en fait, avec une grande évolution de la technicisation, on va dire, de l'accouchement, et puis des grands progrès avec cette maîtrise de la douleur pour la péridurale qui est apparue quand même comme quelque chose de fondamental et de merveilleux à cette époque-là. Et puis aussi beaucoup de progrès, surtout en pédiatrie, hein, qui faisait qu'on se mettait à sauver vraiment des bébés, en particulier les grands prématurés. Et donc en fait, il y a eu une espèce d'euphorie de la technicisation et du progrès médical qui a fait qu'on a mis beaucoup de normativité, beaucoup de contraintes, en oubliant un petit peu que chaque femme est unique. Ça a beau marcher de la même façon pour tout le monde, il y a malgré tout des individualités. Et surtout, ce qui était important, et ça, on s'en est vraiment rendu compte à ce moment-là, ce qui comptait, c'était le mouvement, la mobilité, qu'on n'ait pas des boîtes qu'on ouvre pour faire comme des boîtes de sardines, hein, pour faire sortir les bébés, mais que ça marche mieux quand on bouge, quand il y a de la spontanéité. Et que...
C'est-à-dire que maintenant, une femme qui est sur le point d'accoucher, on peut lui dire allez-y, marchez, bougez, ne restez pas assise comme ça, ou, enfin couchez comme on le faisait avant.
Ça dépend toujours de la même façon, ça dépend des endroits, ça dépend de...
Mais idéalement, c'est comme ça
Idéalement, il y a un consensus, hein, quand même mondial, même, hein, pour dire que ce qu'il faut, c'est la liberté de mouvement, que le mouvement joue. Mais entre le consensus mondial et la réalité d'application, parce que ça nécessite d'avoir du temps, ça nécessite d'avoir une sage-femme qui accompagne une femme, et ça, l'état actuel, en particulier des hôpitaux français, c'est juste une utopie.
De t'entendre parler, je me rappelle ta voix pendant l'accouchement, tout en douceur, où tu disais à la maman, allez-y, c'est très bien, et tout. Et tu encourageais, parce que ça a duré, hein, l'accouchement, elle est arrivée à minuit, et la petite fille, elle est née à midi presque, donc ça avait été vraiment long. Hein.
Oui. Oui, et puis je pense, alors je me souviens plus exactement des détails, parce que évidemment ce dont je me souviens c'est de Cécile, c'est de son compagnon, c'est de des yeux, du visage, des yeux, du regard de Cécile, d'ailleurs que j'ai recroisé il n'y a pas si longtemps que ça, et on s'est reconnu rien que dans un regard, c'était assez génial. Et mais oui, et je pense que ça serait maintenant, je pense que les choses, justement, se feraient un peu différemment, avec encore plus de mobilité, encore plus de mouvement, plus de souplesse. Là, on était encore dans une époque, puis faut se dire aussi que moi, je sortais de l'école 2 ans avant, une école où, moi, à l'époque, j'avais quasiment jamais vu personne accoucher sans péridurale pendant mes études, parce que c'était une école parisienne où c'était l'époque flamboyante des péridurales, où on mettait des péridurales à tout le monde avant que le travail démarre, ensuite on démarrait le travail et puis zou. Voilà, donc c'était un petit peu le départ, n'empêche que voilà, ça avait marché. Hein. Moi, j'avais rien fait, hein. C'est Cécile qui avait tout fait. Mais
bon. Tu l'as bien accompagné quand même, si. Quel est ton rêve, Maï?
Alors, on va passer le rêve de la paix dans le monde et réussir à arrêter nos conneries d'humains. On va passer ça. Pour rester dans le domaine, mon rêve, ça serait de pouvoir semer un peu des graines en tant qu'enseignante, sage-femme, de semer des graines pour essayer de que la future génération de celles qui arrivent prenne vraiment conscience de la capacité qu'ont les femmes déjà et les enfants à se débrouiller, et que on arrête finalement un petit peu de tout standardiser, de tout normaliser, de tout rentabiliser, et donc que vraiment de réussir à faire passer un message sur l'accouchement, sur l'accompagnement des femmes, que ce soit plus, qu'on ait plus confiance, qu'on arrête d'avoir peur de l'accouchement, qu'on ait plus confiance et qu'on, que ça se fasse avec plus de possibilités de choix pour les femmes, plus tranquille.
Ça t'avait posé problème de dire, tiens, il y a un journaliste qui a envie de faire un reportage sur un accouchement? Comment tu as un souvenir de...
Non, je pense pas que ça m'avait posé problème. J'ai pas trop de souvenirs, mais je pense que tout était assez évident. Moi, j'ai en tout cas cette sensation-là. Je me souviens qu'on avait beaucoup rigolé.
Et
on avait passé du temps. Puisque nous, on faisait. Alors, moi, j'étais pas là au départ. C'était des gardes de 24 heures. C'est vrai qu'on faisait. Tu avais passé une première garde de 24 heures. Mais il n'y avait pas eu de possibilité pour toi.
Il y a pas eu d'accouchement, même.
Oui, tout à fait. Et je me souviens d'avoir pris la garde. Il y a une chose dont je me souviens, c'est que j'avais quand même été un peu fort en t'affirmant que comme c'était la pleine lune et que la marée était haute à 2h du matin, ça c'était vrai, grande marée à 2h du matin, j'y avais été franco en te disant, de toute façon, t'inquiète pas, à partir de 23h, il va y avoir des poches des eaux qui se rompent et il y a des femmes qui vont arriver. Et je t'avais dit ça avec un aplomb, en me disant, en croisant un peu les doigts, en me disant, bon, on va jouer le tout pour le tout, faut pas qu'il se désespère, ce pauvre gars, quand même, être là, attendre. Et 23h15, première entrée, et je pense qu'il y a eu 3 ou 4 entrées, comme on dit, ce soir-là, avec des femmes qui avaient rompu les poches des eaux. J'étais tellement fière de la lune.
Mais surtout que, moi j'ai lu, ou m'a dit que, finalement, aujourd'hui, il y en a qui disent, mais ça n'a rien à voir.
Oui, il y en a qui disent.
Mais pas
Je sais pas, on est sur de l'empirisme pur. C'est vrai qu'il n'y a aucune étude qui a pu le prouver, mais il y a tellement de biais, c'est-à-dire... tellement de biais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment sont préparées les femmes? Est-ce qu'il y a eu des touchés avant? Est-ce qu'il y a eu... Enfin, après, j'en sais rien. Non, en effet, rien n'est prouvé. Mais franchement, à chaque fois qu'on prenait une garde, on était à Paimpol, on était juste au bord de l'eau. Et à chaque fois qu'il y avait la pleine lune, à chaque fois, on remplissait, quoi. Donc non, ça n'existe pas, mais qu'est-ce que c'est vrai?
Enfin, moi, je te remercie parce que ça m'a permis d'assister à mon premier accouchement. Quand je dis que j'ai assisté à 6 accouchements, on me dit « Ah, t'as 6 enfants ?» Je dis « Non, non, le premier, c'était pour le travail. » Pour la naissance de ma fille, j'étais pas du tout inquiet, j'avais déjà assisté et les choses se sont passées très naturellement, quoi.
Bah oui, je pense que c'est ça aussi, le fait... Et comme tu dis, est-ce que ça t'a posé problème et tout? Non, parce que, encore une fois, de pouvoir présenter l'accouchement, de pouvoir présenter tout ça d'une manière sereine et tranquille, je pense que dès qu'on pourra le faire, dès qu'on peut le faire, il faut le faire pour essayer de dédramatiser et d'enlever cette image qui nous assaille dès qu'on prononce le mot accouchement. Ça y est, tout le monde est terrorisé et ça, il va falloir qu'on réussisse à briser ça quand même.
A posteriori, je me demande, mais qu'est-ce que tu as pu dire à Cécile, la future maman, pour qu'elle accepte qu'il y ait un journaliste qu'elle ne connaissait pas, qui soit là, dans cette salle de travail?
Je ne sais plus, mais je pense que, comme je te disais, les choses se font avec pas mal d'évidence, c'est-à-dire que nous aussi, c'est quelque chose, on est dans un moment hyper particulier, la femme qui arrive, qui va, qui va faire son travail d'accouchement, qui va avoir son bébé, le couple est là, on est dans un moment où ça fait partie aussi de notre façon de faire, je pense, les sages-femmes, d'accueillir et de mettre en confiance assez rapidement. Donc, je sais pas, je pense que pour elle aussi, ça a dû être quelque chose de très doux et de très normal, avec toujours la possibilité, de toute façon, on lui a toujours laissé la possibilité de dire on arrête. J'ai pas de souvenir, à part ce souvenir-là de la nuit, déjà, qui est quand même un moment hyper particulier, hein. Le moment de la nuit, de cette intimité de la nuit, de cette douceur, de cette lenteur.
Bon, en tout cas, merci pour l'accouchement, merci pour l'hébergement et bonne journée à toi. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui?
Oh, c'est terrible. Je vais faire passer des oraux de diplôme d'État des étudiantes sages-femmes qui terminent là.
Ah oui?
Ouais, les pauvres. Je pense qu'elles sont en train de trembler là et moi je tremble pour elles.
Bon courage.
Merci. Moi aussi.
Voilà. Alors pour une fois, c'est Maï qui est partie la première, puisqu'elle devait aller interroger les futures sages-femmes ou sages-hommes. Et moi, j'ai pris le bus, ah oui quand même, pour la presqu'île de Crozon. Et là, je marche sur le sentier côtier entre la plage de la Vierge et Crozon. J'ai toujours la mer d'un bleu magnifique sur ma droite et toute cette baie de Douarnenez. Entre ici et Douarnenez, qui est de l'autre côté, il y a 12 km. On pourrait mettre Paris. Dans la baie, il y a un ciel bleu avec des nuages de guimauve blanche et pas de nuages inquiétants. Des pins qui sont là, beaucoup, ont été arrachés par la tempête, mais certains tiennent encore bien debout, heureusement. Je pense que si on me téléporte et on me demande où je suis, spontanément je dis que je suis dans les Calanques du côté de Marseille. Peut-être la chaleur en moins. La température est de 15 degrés. Donc, je pourrais peut-être hésiter, mais autrement, le paysage ressemble fortement. Le vent souffle légèrement, et je vais en profiter pour vous lire un petit message que j'ai reçu de Bérangère. Hervé, si je peux vous partager deux rêves. Le premier est à portée, nous déménageons de Nantes à Brest l'été prochain, celui qui arrive, avec notre fille de 7 ans, quelque peu contre ce projet. J'aimerais que ce projet soit couronné de succès car j'en suis l'auteur. J'ai vécu à Brest pendant 4 ans et demi et je voulais y retourner. J'aime cette ville, les environs magnifiques, l'océan à proximité, les gens. Et mon deuxième rêve, ce serait que le monde aille mieux, que l'on prenne conscience de l'urgence climatique réelle, que l'on arrête la surconsommation, les achats et les productions au bout du monde, que l'on respecte le vivant, humains, animaux, plantes, et que nos dirigeants pensent au peuple et non pas à leur compte en banque, leur ego surdimensionné. Rêve utopiste, mais rêve quand même. Bon, c'est pas le tout, mais c'est lundi, j'ai du boulot. Bon courage Bérangère et bon déménagement. Et là, en marchant sur ces épines de pin, je pense à Maï et son métier de sage-femme. Je me rappelle un jour, quelqu'un m'avait dit « Mais vous êtes un accoucheur de mots. » C'est vrai que parfois les gens me disent « Ah, mais je vous ai raconté ça, mais je ne l'ai jamais raconté. » Comme disait Maï, aider maintenant la femme à mettre au monde, et moi c'est aider la personne à délivrer ses mots. Donc je suis passé près de la Grande Roche, et puis le fort de Cadore, et je suis redescendu là sur la plage de Morgat. Il y a un monsieur qui est en train d'enfiler sa voile sur son mât. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Excusez-moi, Elle est à combien l'eau ?
13 à peu près, 13 degrés.
Bon, ça va, ça vous fait pas peur, mais vous êtes en combinaison.
Oui, oui, c'est ça, oui.
Est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Thierry.
Quel est votre rêve, Thierry ?
Ouf, j'en ai pas forcément. Je sais pas. J'ai pas réfléchi, là, vous... je sais pas trop.
Parfois, on n'a pas besoin de réfléchir pour les rêves.
Bah, ouais.
C'est le cœur qui parle.
Oui, bon, je sais pas trop. Non, j'ai pas de. Non, j'ai rien à l'idée, là.
Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie ?
Je suis commerçant.
À Morgat ?
Oui, ici, à les magasins L'Hibiscus.
Ah, vous vendez quoi, des fleurs ?
Pas du tout, des vêtements.
C'est ouais. Pas mal, alors vous êtes face à la mer et quand il y a une petite pause, tout ça, là, entre deux clients, vous allez faire un petit tour sur la plante.
C'est ma femme qui prend le relais, donc voilà, on s'arrange comme ça.
Et vous êtes ouvert le lundi ?
On est ouvert tous les jours. De début avril jusqu'à mois de janvier. Voilà.
Ah bah oui, en plus vous avez l'hibiscus Quimper Morgat sur votre voile. Comme oui. Ça, vous faites un peu de publicité pour votre magasin.
C'est ça.
Bon, bah, bonne navigation,
oui,
monsieur.
Merci.
Bon, 13 degrés, l'eau. Thierry n'a pas de rêve, mais j'ai la réponse à ma question. Alors, quand vous passez le long de la plage, il y a... En cas de découverte de pélagie, ne pas toucher. Les pélagies sont très urticantes, avec la photo. Ah ben, ça donne envie. Un petit bain au milieu des méduses. Il n'y a personne en maillot de bain dans l'eau. Hein. Il y en a beaucoup qui sont habillés, assis sur le sable, ou qui marchent. D'un côté, la plage, de l'autre, les commerçants. Et au large, quelques bateaux, au mouillage. De temps en temps, il y a du soleil. Alors, on est bien, on a envie d'aller se baigner. Mais là, je suis à l'ombre avec le vent. On a un peu moins envie. Voilà, il y en a carrément qui ont les anoraks. Et vous entendez, au début, c'est du sable et après, c'est des galets. Donc là, vous entendez la démarche beaucoup plus hésitante. C'est parce que je suis pieds nus sur les galets. Donc, c'est moins facile. Et une fois de plus... Je vais essayer de ne pas mettre mon agra dans l'eau. Oui, 13 degrés, ça va, quoi. Oh, voilà. Oh, c'est bon. Oh, oui. Ne croyez pas que je vais rester aussi peu dans l'eau. C'est juste que je vais poser le nagra, parce que quand même, je crois pas que l'eau salée, ça fasse du bien. À tout à l'heure, hein. Sauf si je me le fais piquer pendant que je me baigne. Eh bien, je me suis baigné à Morgat pour la première fois de ma vie. Et elle est, moi, je trouve, elle est bonne, quoi. 13 degrés, il a dit, Thierry... Ah, là, d'un coup, je suis à l'ombre. Il y a un petit nuage qui me masque. Donc là, il fait un peu plus frais. Autrement, c'est très agréable, quoi. Le bain m'a donné une patate. Je marche deux fois plus vite. J'ai grimpé jusqu'à la pointe du menhir. Vous savez, ces radars qui vous indiquent votre vitesse, et c'est en vert quand ça va bien et c'est en rouge quand vous allez trop vite. 8 km/h. Et ben moi, devinez la couleur. C'était vert, un beau vert. Ça me paraît beaucoup, quand même. Et là, j'arrive à Crozon, et il y a un petit stand pour manger et une boutique pour surfer. Bonjour monsieur, vous êtes surfeur ?
Oui.
Quel est votre plaisir dans le surf ?
Tout simplement de glisser sur la vague.
Et
vous avez... Et puis de rencontrer les gens, voyager, il y a plein de trucs. C'est oh.
Vous êtes
un art de vivre, quoi.
C'est une culture.
C'est une culture aussi, ouais.
Où est-ce qu'on surfe par ici ?
Partout où il y a un accès à la mer, en fait. Hein.
Parce que moi, j'ai toujours entendu dire que le surf, c'est Biarritz, tout ça, mais... Les spots ici sont aussi bien que là-bas ?
C'est différent, parce qu'ici il y a le vent qui rentre en jeu. On est en façade de l'Atlantique, donc on prend les dépressions en pleine tronche toute l'année, donc il y a beaucoup de vent et il faut souvent se protéger du vent avec les falaises et tout ça. Tandis que dans le Pays Basque, il y a beaucoup moins de vent. Dans le golfe de Gascogne, là, c'est la houle rentre fort aussi parce qu'il n'y a pas de plateau continental, donc elle n'est pas freinée cette houle. C'est vrai que le Pays Basque et les Landes, c'est vraiment l'endroit en France où ça surfe fort, quoi, où le niveau de surf est plus fort. Ici, c'est plus une culture du nautisme. On fait du surf, on fait du kite, on fait de la planche, on fait plein de choses, quoi. Avec des spots très variés, très intéressants, parce que ça surfe toute l'année aussi. Parce qu'on peut toujours s'abriter des grosses houles, même quand il y a 10 mètres de houle, on peut surfer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant, quoi. Puis bon, c'est cette culture du... Plein de marins, des marins pêcheurs, tout ça, ça se mélange et ça fait une culture très intéressante. Ouais.
Vous arrivez à vous mélanger avec des marins pêcheurs ?
Souvent, les surfeurs, ils pêchent aussi.
Ah oui ?
On est proche de la mer. Hein. Ouais.
Quel est votre prénom ?
Guillaume.
Quel est votre rêve ?
Être heureux, quoi, c'est cool. Juste être heureux, pas se prendre la tête pour des broutilles, quoi. Si, moi, je suis heureux, là. Je suis heureux ici. Hein.
Donc, vous vivez votre rêve ?
Ouais, un peu. C'est jamais c'est pas un long fleuve tranquille, hein, mais on essaye de faire en sorte pour s'éclater, s'amuser tous les jours, quoi. Carrément.
Et vous êtes allé surfer aujourd'hui ?
Ah ouais, moi tous les jours, ouais.
Ah ouais. Vous commencez le matin ?
Bah là, j'avais un cours ce matin, ouais.
Parce que vous êtes prof ?
Ouais, je suis prof de surf, ouais. Bah en fait, j'ai passé mon diplôme là pour être surfeur quand j'avais 30 piges. Puis je faisais les saisons d'hiver à une époque. Je donnais des cours de ski, j'ai bossé dans des magasins de ski. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler au centre nautique de Morgat, là. Et j'ai fait une saison longue en tant que moniteur de surf. Mais en fait, je me suis installé là parce que la presqu'île de Crozon, c'est dingue, quoi. Il y a plein de choses à faire et puis pas que du surf, quoi. Les gens sont cool. J'ai pas mal voyagé et puis j'ai... Enfin, en général, les Bretons, ils se barrent quand ils se rendent compte que ça caille chez eux. Puis ils reviennent au bout d'un moment parce qu'ils trouvent que l'ambiance est super sympa en Bretagne. En général, les Bretons, c'est quand même des gens ouverts, hein, c'est des voyageurs. Hein. Partout où tu voyages, tu rencontres un Breton de toute façon. Hein.
Bon, je vous laisse terminer vos raisins secs.
Mes raisins secs, ouais. Merci.
Mais c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Vous voulez savoir qui va m'héberger ce soir à Crozon ? Si vous êtes des fidèles auditeurs, vous pouvez le savoir. Sinon, je vous dis tout demain. Rendez-vous 6h, 6h05. Je compte sur vous. D'ici là, portez-vous bien, bonne balade à tous et ciao !
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.